Nous sommes le mercredi 1er mars 2021 et nous vous saluons, vous toutes et vous tous. Indilo, bonjour, Norodbio, les manets, la fière, pour dire que nous sommes bel et bien au studio ici pour vous accompagner au Club La Presse pendant 60 minutes. Et puis après, à partir de 12h, vous pourrez entrer en ligne sur les deux numéros que vous connaissez déjà, avec l'accompagnement technique de Vitogbe Koku Michel Tomega et de Jiro Dakucha qui va nous rejoindre incessamment. C'est le 1er mars d'il y a quelques années qu'elle est venue au monde. Elle, c'est Abra Chimène Amegambi. C'est l'une de nos secrétaires ici à Canal FM. Le club La Presse lui adresse ce clin d'œil. Juste un petit moment pour que...
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire à toi, Chimène, que moi je préfère toujours appeler Abra. Pendant que j'accueille dans ce studio Sylvestre Koku Beni, le directeur du journal La Manchette, bonjour.
Oui, bonjour Sassé, bonjour à toutes et à tous.
Comment tu vas? Très bien.
Non, ça va, ça va. À la Togolaise.
Le Togolais va toujours très bien.
Très bien, voilà.
Voilà, et Abel Ozi ne va pas nous dire le contraire, bonjour.
Bonjour Sassé, bonjour à tous et à chacun.
Santé éducation parue aujourd'hui.
Exactement.
Et tu es là pour nous en parler.
C'est ça.
Après santé éducation, nous allons partager les autres sujets, à savoir la chaleur, le dérèglement climatique, et puis ce que la présidente du HCRUN, également la médiatrice de la République, a annoncé comme devant démarrer aujourd'hui, à savoir la déclaration des biens et avoirs par les grandes autorités de ce pays, le Togo, et d'autres sujets de proximité. Juste le temps que nous nous nourrissions à la sagesse qui nous enseigne que si j'effaçais les erreurs de mon passé, j'effacerais la sagesse de mon présent. Encore une fois, si j'effaçais les erreurs de mon passé, c'est la sagesse de mon présent que j'effacerai. Pour dire Sylvestre Beni, c'est au fil de nos erreurs que nous gardons, que nous gagnons en sagesse.
Oui, en effet. On dit très souvent que celui qui n'a pas appris des erreurs du passé est condamné à les revivre. Donc, il faut véritablement donc, se rappeler de ces erreurs-là et prendre donc, des dispositions pour ne plus les répéter. Donc, on ne peut pas en fait les ôter de notre passé, de notre vie. Et ça nous permet donc de mieux appréhender l'avenir. Voilà.
Merci. Il est tout à fait normal que nous commettions les erreurs. Mais comme tu le dis, celui qui ne corrige pas ses erreurs
est condamné à les revivre.
À les revivre. Voilà. Nous faisons l'effort au jour le jour d'apprendre de nos erreurs et de gagner petitement et innocemment en sagesse. Pour dire que cette émission est modérée par un innocent, le seul d'ailleurs.
Oui, avec une bénédiction donc du seul béni.
Ah, voilà. Il est permis de rêver, n'est-ce pas, Abel?
C'était ça.
Merci. Eh bien, Santé Éducation qui est là aujourd'hui et qui produit un dossier sur deux pages. Il s'agit de ce que vous avez intitulé « Les alcools en sachet ». Attention aux maladies chroniques. Et Abel, Santé Éducation rappelle que depuis le 24 octobre 2019, le Togo a pris des dispositions légales pour interdire la production, l'importation ou la commercialisation des boissons alcoolisées, boissons alcooliques en sachet plastique. Il y a ce que la loi dit. Il y a la réalité, à savoir ces boissons en sachet qui continuent à inonder le marché togolais avec des qualités bien douteuses mais également avec ce constat que ces boissons alcoolisées en sachet sont prisées par la jeunesse. Voilà le contraste, Abel.
Oui, c'est le constat d'abord qu'on a fait et c'est encore une alerte qu'on lance. Vous savez, aujourd'hui, c'est un sujet de santé publique. Le gouvernement a pris une décision importante, mais jusqu'à présent, cette décision n'est pas encore effective. Et ces boissons alcoolisées en sachet inondent encore le marché togolais. Et ce qui est alarmant, on peut constater que on ne connaît pas la composition de ces boissons. Mmh. Donc, et plusieurs experts que nous avons interviewés, nutritionnistes, cardiologues et généralistes, nous ont dit en réalité quels sont les dangers, les risques que nous courons, en particulier cette jeunesse, quels sont ces dangers que cette jeunesse court en consommant régulièrement ces boissons-là.
Eh bien, l'article dit que ces boissons en sachet ne répondent pas aux normes d'hygiène et constituent une menace réelle pour la santé des consommateurs. Et vous avez approché des spécialistes, des médecins, des nutritionnistes, des agents de santé qui vous ont livré des constats assez alarmants.
Oui, 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 c'est ça, des infirmiers, des généralistes, des cardiologues, des nutritionnistes qui nous ont dit en réalité quels sont les effets néfastes de la consommation régulière de ces boissons. On peut commencer d'abord par les maladies cardiovasculaires. Mmh. Parce que quand on consomme ces boissons, on peut être sujet à ces maladies cardiovasculaires et aux maladies digestives. Mmh. Voilà. L'ulcère, par exemple. Et on peut également être sujet aux troubles neurologiques. C'est-à-dire que ces boissons affectent notre mémoire. Mmh. Et on peut aussi être sujet à des cancers.
Eh bien, la liste qui fait froid dans le dos est contenue dans l'article. La consommation excessive de ces boissons en sachet peut causer des problèmes cardiovasculaires, des problèmes gastriques, et ça peut même conduire à des cirrhoses du foie et également créer une certaine dépendance vis-à-vis des sujets.
C'est ça, une dépendance. On en prend deux, on en prend trois. Et ça crée cette dépendance-là. Et à chaque fois, on a envie de manger, quand on a envie de s'évader, quand on a envie d'être un peu à l'aise, on en prend. Et ça crée une dépendance à long terme. Et c'est néfaste pour notre santé.
Et nous laissons le soin aux auditeurs d'acheter le journal et de lire l'article sur deux pages 4 et 5. Mais Sylvestre Béni, voilà un constat. Depuis octobre 2019, le Togo a pris des dispositions légales pour interdire aussi bien la production, l'importation ou la commercialisation des boissons alcoolisées en sachet. Mais le constat est réel sur tous les marchés. On voit les étalages inondés de ces boissons qui sont bizarrement prisées par la population togolaise avec les alertes que lance le corps médical.
Oui, je crois que c'est vrai qu'on prend des décisions, mais c'est le suivi qui fait défaut. Avant, je me disais que, bon, du fait donc que le pouvoir central, uniquement le ministère du Commerce qui a quelques contrôleurs par ici, par là, maintenant, je crois que pour être efficace, pourquoi ne pas élargir donc cette surveillance-là aux communes? Puisque aujourd'hui nous avons quand même des avec également leur équipe et tout, comme ça on peut mieux circoncire donc le mal, puisque aujourd'hui c'est un fait réel. Vous voyez nos amis les Edman en quand même tellement parfois tôt le matin sans même manger et tout. Donc il faudrait véritablement, mais surtout je crois que Abel l'a évoqué tout à l'heure, la composition donc de ces boissons, nul ne le sait. Comment est-ce que quels sont donc les éléments qui rentrent donc dans la composition de, nul ne le sait, mais bon, on en consomme et bon, ça créera évidemment des dommages donc à la jeunesse et tout. Donc une fois que la décision est prise, je souhaite véritablement que le ministère du Commerce puisse réfléchir hein, avec les mairies pour que cela se fasse. Aujourd'hui, il y a un fait qui est réel. Quand la décision donc du gouvernement a été prise en ce qui concerne donc le dégorgement donc des voies, une fois qu'il s'est élargi aux mairies, vous avez vu que ça passe très rapidement. Donc pourquoi ne pas aussi penser à ce système-là, penser également à cette proposition élargie aux communes pour qu'on puisse le faire
les véritablement. Les mairies pourraient faire les contrôles oui. sur les étalages de leur territoire, mais on se pose en amont.
Oui.
Ces personnes qui sont importées, alors que font nos agents des douanes? Que font les d'immigration pour que ces alcools en sachets passent librement nos frontières et inondent nos marchés? Le ministère de la Sécurité, c'est ce qui lui revient de faire. Le commissaire général également de l'OTR doit savoir ce qu'il faut faire pour mettre notre pays à l'abri de ces produits de qualité douteuse qui nous cause des soucis et qui vient même impacter négativement notre santé. Quant à nous, Abel, il faut aller au-delà de ces alcools en sachet pour poser le problème de tous les alcools, de toutes les boissons frelatées dont certaines sont produites chez nous ici, dans nos maisons, dans nos champs, dans les villes et campagnes, et également qui sont vendues à vil prix sur les marchés. On vous vend une bouteille de whisky à 1000 francs, une bouteille de vin à 1200,
oui.
ou bien une bouteille de gin à 800, et les gens raffolent. Bien sûr, la pauvreté, mais attention, parce que ma fille, elle me dit que le moins cher se révèle souvent.
Exactement ça. Il faut toujours faire un bon contrôle, un bon suivi de ces produits, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de produits frelatés sur le marché. Et nous interpellons, comme le confrère l'a dit, tous les acteurs à pouvoir travailler en symbiose pour que la santé du consommateur soit une meilleure santé, pour que ces produits ne créent pas en réalité des dommages, des maladies pour la santé des populations. C'est vraiment important. Donc, que ce que nous consommons soit vraiment notre médicament, mais pas des dangers pour notre santé.
Et Abel, pour terminer, nous parlons de ces alcools en sachet, nous parlons des boissons, notamment les alcools frelatés fabriqués ici et là avec des compositions douteuses, même pour les bons alcools. Notre organisme n'a en fait pas besoin d'alcool, n'est-ce pas?
Oui, l'organisme même crée d'alcool.
Lui-même se fabrique son alcool ou bien ses alcools.
Voilà. Donc, je crois que dans l'article, il y a un spécialiste qui est revenu sur ça pour nous montrer en fait comment est-ce que nous, à quel moment peut-être nous pouvons consommer de l'alcool. Parce que c'est vrai que l'organisme en a besoin, mais le spécialiste est revenu en fait sur le moment. Parce que il ne s'agit pas de boire pour boire. Aujourd'hui, c'est ce que les gens font. Mais l'organisme crée même son propre alcool. Et qui permet à la santé d'être meilleure. Donc, nous interpellons encore le consommateur, ou bien nous, en tant que citoyen lambda, à pouvoir être vigilant sur ces produits, parce que sur le marché, attention.
Il y va de notre santé, aussi bien les alcools que les boissons sucrées, les autres boissons énergisantes. Qui ne sont pas sans effet non plus sur notre santé. Eh bien, des alcools et des boissons, passons maintenant aux cigarettes, au tabac, qui ne sont pas non plus indispensables. Mais c'est une réalité, des gens ont toujours fumé, des gens continuent à fumer. Et peut-être que ceux-là ne savent pas que la cigarette et le tabac sont cause de dépression.
Oui, effectivement, beaucoup ne savent pas que la cigarette, le tabac, et peut entraîner la dépression. Quand on parle de dépression, ce n'est pas seulement un trouble. Dépression, c'est une maladie. C'est une maladie en fait qui se caractérise notamment par une grande tristesse et un sentiment de désespoir, une perte de motivation et peut-être la personne a souvent des pensées suicidaires morbides. Donc l'un des facteurs qui peut entraîner la dépression, c'est la cigarette, et c'est vice versa.
Merci, cigarette et dépression, un cercle vicieux. Eh bien, quelques-unes des conséquences du tabac hein, agissent sur la santé mentale du fumeur. Que celles et ceux qui ont des oreilles écoutent. Et nous passons maintenant à une dépression naturelle. Il s'agit de ce qui arrive aux dames pendant la grossesse. Dépression pendant la grossesse, cause et signe d'alerte. C'est l'autre article de santé éducation.
Exactement. Vous savez, chez l'enfant enceinte, avec ce bouleversement hormonal durant la grossesse, la femme enceinte peut être sujette également à la dépression. Et c'est vrai, on peut reconnaître quelques signes chez l'enfant enceinte. Et ce qui est important de faire, c'est de la soutenir dans ces moments-là. Parce que une femme enceinte dépressive, attention, ça peut impacter sur sa santé et sur la santé du fœtus. Donc, elle a besoin du soutien familial, elle a besoin d'être accompagnée, elle a besoin d'un soutien psychologique pour ne pas que cette grossesse soit fatale pour elle.
Merci, femme enceinte et compagnon, mari ou autre de femme enceinte. Nous vous recommandons cet article à la page 6, dépression pendant la grossesse, les causes et les signes d'alerte. Et comme Abel a dit, il faut que la femme enceinte bénéficie d'une attention bienveillante à la maison ou bien sur le lieu de travail. Michel, derrière la vitre, Michel, suis mon regard. Je disais que la femme enceinte a besoin d'attention aussi bien dans le cercle familial que sur le lieu de travail. Tu suis mon regard. Merci beaucoup et nous terminons avec cette recommandation, les feuilles de baobab qui sont recommandées pour traiter entre autres l'anémie et les crises d'asthme parce que les feuilles de baobab ont un grand apport important en calcium, en fer, elles sont riches en antioxydants, en phosphore, en potassium, en magnésium, en manganèse, en zinc, en provitamine A et vitamine C, elle constitue un excellent complément alimentaire.
Exactement, les feuilles de baobab, tout le monde connaît. C'est une recette qu'on met à disposition des lecteurs. Comment est-ce qu'il faut utiliser ces feuilles pour traiter la cause de l'anémie? Donc, nous invitons le lecteur à pouvoir s'approprier le journal pour pratiquer cette recette afin de pouvoir recouvrer santé.
Merci. Nous passons à ce phénomène climatique que nous vivons et que nous subissons et qui nous cause beaucoup de désagréments. Il s'agit de cette ou bien de ces vagues de chaleur actuellement le mai. L'article relève que certaines personnes, dont nous tous ici, nous avons du mal à dormir dans les chambres. À midi et même la nuit, vous êtes inondé de sueur parce qu'il fait chaud. Alors, Abel, quels sont les effets de cette chaleur sur notre santé et que devons-nous faire?
Merci, Sas. Aujourd'hui, c'est le constat. Il fait chaud. Il fait chaud à l'aube.
Il fait de plus en plus chaud.
Voilà. Donc, et cette chaleur a des conséquences sur notre santé. D'abord, quand il y a trop de chaleur, on n'arrive pas à réfléchir. Je vais le dire ainsi, on est déconcentré. Donc ça veut dire que la chaleur a un impact sur la santé mentale comme la santé physique. Donc sur la santé physique, le premier signe c'est la déshydratation. Mm-hmm. Est-ce qu'on voit? Donc et on n'arrive pas peut-être à prendre des décisions parce que la chaleur impacte notre mental, impacte notre psychisme. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toujours avoir une bouteille d'eau à côté, toujours boire. Et surtout, veiller au bien-être des personnes fragiles, qui sont les bébés, les nourrissons, les femmes enceintes et les personnes âgées. Et les malades également, parce que ce sont des personnes très vulnérables, très fragiles dans ces temps de chaleur.
Leur donner suffisamment à boire également, pour les bébés, leur faire prendre du bain. Afin que l'organisme ne soit pas déshydraté, parce que ces vagues de chaleur nous causent des maux de tête, des nausées, des étourdissements, des faiblesses ou des fatigues, même des fois des évanouissements. Ça peut même créer la confusion, même des crampes musculaires. Ça peut même altérer notre respiration et naturellement la déshydratation. Donc, recommandation, boire beaucoup d'eau, protéger les personnes sensibles comme les femmes enceintes, les petits-enfants, les personnes âgées, éviter d'exercer des activités qui font beaucoup transpirer et nous faire perdre de l'eau, n'est-ce pas?
Exactement.
Et puis également notre habillement.
Notre habillement est vraiment important.
Voilà, vous nous recommandez.
Voilà, notre habillement est vraiment important. Faut pas porter des habits moulants, mais faut porter des habits souples, des habits qui peuvent amener la personne à aérer son corps. Mm-hmm. Donc ces genres d'habits, il faut surtout les porter.
Des habits amples de préférence, voilà, en coton.
En coton, voilà. Des habits amples de préférence en coton.
Parce que si on devrait porter des habits en fibre synthétique en ce temps de chaleur, c'est comme on versait de l'huile sur le feu.
Voilà.
Merci à toi, Abel, mais tu restes à nos côtés de temps puisque la chaleur que nous vivons, que nous subissons, c'est pas seulement dans nos chambres parce que nous avons du mal à dormir, mais l'environnement autour de nous aussi. Et Sylvestre Béni, tu connais bien la région de Kwalemé, notamment les chutes d'eau.
Oui.
À Kroa, à Omé, à Kwimé, oui, et consorts. Eh bien, Dounia Le Monde écrit ce matin à la page 7 que les chutes d'eau diminuent. Et d'année en année, l'intensité de nos chutes d'eau diminue. C'est pas seulement au Togo. Et témoignage d'un habitant de Kwimé qui dit que la pluie ne tombe plus assez pour que le barrage en haut soit plein jusqu'à déborder sur la chute. Et il continue que l'espace qui était autrefois une grande forêt devient un désert. Et tu partages ce constat, Sylvestre?
Oui, oui, parce qu'aujourd'hui, c'est le phénomène climatique qui déteint sur tout cela, parce que nous venons de le dire, aujourd'hui il fait beaucoup en plus chaud à Lomé et tout cela donc est donc à mettre à l'actif donc du changement climatique, d'autant plus qu'avec les productions industrielles et tout, avec les gaz à effet de serre et tout. Donc, mais au niveau des politiques publiques dans tous les pays, il y a quand même des initiatives qui sont prises. Il y a la COP où ces genres donc de discussions sont abordées. Les États africains qui ont également leur position là-dessus. C'est vrai que lorsque on prend donc l'Afrique n'est pas un grand pollueur comme les pays occidentaux qui ont tellement donc d'usines et tout. Mais tout compte fait, l'Afrique subit d'une manière ou d'une autre ces changements climatiques-là. Voilà, nous en parlons avec les cascades à Omé, à Kwimé et tout. Donc, c'est à nous. Il nous revient donc de plancher beaucoup plus sur la biodiversité, surtout l'abattage des arbres. Il faudrait qu'on en plante beaucoup plus. C'est vrai qu'au Togo, nous avons déjà cela comme tradition, et chaque 1er juin, on met quand même des plans et tout. Donc, voilà ce que nous... C'est un phénomène qui, ma foi, devient presque fatal, parce que on subit le phénomène. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut également des moyens, puisque l'Afrique en demande suffisamment donc aux gros pollueurs pour prendre donc des initiatives ainsi concernant donc leur politique publique. Donc, on espère que les initiatives qui sont souvent réfléchies ça et là puissent être implémentées donc dans tous les pays africains pour que dans le monde pour que cela on ait de moins en moins donc de ces phénomènes et donc de ces conséquences.
Merci. Les phénomènes à effet de serre qui sont cause de dérèglement climatique. Mmh. Et le phénomène, même si l'Afrique n'est pas grand pollueur, oui, nous en subissons les effets. Je me rappelle, il y a 30-40 ans, les plus aînés se rappelleront sans doute les forêts galeries qui longeaient nos cours d'eau, le Zio, le Raho, tout l'entourage du lac Togo, le Mono, l'Oti et les autres. Mais aujourd'hui, nous avons coupé tout ça.
Oui.
Nos villes s'agrandissent. Et la conséquence est que il y a de moins en moins d'arbres et il fait de plus en plus chaud. Le gouvernement, pour corriger, a lancé cet ambitieux programme de planter 1 milliard d'arbres. C'était un programme lancé en 2020.
Oui.
Planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Tu suis sûrement ce programme.
Oui.
Combien
oui.
d'arbres nous plantons chaque année pour atteindre le milliard en 2030?
Je crois qu'avec la volonté, nous pouvons véritablement le faire avec la volonté. Mais une chose également de planter, l'autre c'est de les suivre. Vous voyez, généralement, ça devient presque la mode, une tradition. Le 1er juin, bon, il y a quand même cet engouement-là. On va planter des arbres. Mais après le suivi, hein, qu'est-ce qui est fait donc de ces arbres-là? Mais je crois que s'il y a la volonté, on peut le faire. Mais pas forcément une initiative du gouvernement, mais tout le monde, que ce soit dans ton environnement immédiat et tout, il faut penser donc à la verdure et tout, la biodiversité. Il faut en penser véritablement. Pas attendre nécessairement le gouvernement, mais bon, nous pouvons
le faire. Tant plus voilà. que la montée de la chaleur, le dérèglement climatique, c'est pas propre au Togo.
Ouais.
Ceux qui suivent l'actualité en France, écoute. Les Français qui se plaignent que depuis bientôt 40 jours, la France n'a plus enregistré de grandes pluies. Leur nappe phréatique s'assèche. Et plus loin, le pôle antarctique voit les glaciers fondre
ouais.
sur les montagnes. Les glaciers éternels qui ornaient le sommet des montagnes fondent au jour le jour. C'est un problème mondial. Et comme il n'y a pas de hasard, c'est aujourd'hui même qu'il s'ouvre à Libreville le One Forest Summit
oui.
Pour les experts et les politiques qui vont se retrouver, partager le constat, mais réfléchir sur la problématique de sauver la forêt, non seulement au Gabon, mais dans le monde entier, parce que c'est l'arbre qui est le meilleur régulateur de l'atmosphère.
Oui, c'est l'arbre, mais pour qu'il y ait l'arbre aussi, il faudrait également penser à la pluie. Aujourd'hui, il pleut de moins en moins donc dans nos pays. Je crois que pour ce mois de il y a quelques jours, il y a eu plus quand même au pays, mais pas
une
donc
une petite pluie.
Mais
la nuit du samedi au dimanche.
Justement, mais les experts promettent quand même une pluviométrie normale pour cette saison. Donc on espère que au moins on aura donc d'abondantes pluies. Malheureusement qu'il y aura certains aussi qui vont en souffrir puisque les inondations et tout, on sait ce que ça donne aussi, mais donc il faudrait véritablement en profiter de ces moments là pour mettre donc des plans et les entretenir pour que nous ayons quand même une bonne verdure.
La transition est faite avec cet article du confrère La Dépêche qui à la page 2 nous parle de la météorologie. À quoi s'attendre à la nouvelle saison pluvieuse? Et pour La Dépêche revient sur cette rencontre que les experts en hydrologie ouais. et en météorologie ont tenue il y a quelques jours. Ces experts qui annoncent des cumuls saisonniers de pluie en mars, avril et juin dans le sud du Togo et dans le golfe de Guinée, avec pour la conclusion ils disent plutôt il ne faut pas s'attendre à une saison extraordinairement humide ou à une saison extraordinairement sèche pour dire que nous devrions avoir une saison moyenne en pluie.
Oui, justement, c'est ce dont je parlais tout à l'heure parce que c'est une rencontre qui a été tenue à Lomé et on peut dire que les nouvelles sont pour le moins rassurantes puisque on n'aura pas aussi... il y aura quand même plus, même si c'est pas ce qu'on espérait. Mais on aura quand même la moyenne. Et puis, ça permettra également à ceux qui sont dans le domaine donc de l'agriculture ou autre aussi de véritablement penser donc à leurs produits, à leurs récoltes et tout ce qui va avec. Voilà.
Donc, bientôt, les pluies, les producteurs agricoles, les paysans qui bénéficient sûrement de l'accompagnement, de l'expertise des experts que le gouvernement a mis à leur disposition, eh bien, ces experts et les météorologues nous situeront sur l'avènement des premières pluies et les comportements que les agriculteurs devront adopter s'il faut semer avec les premières pluies ou bien attendre quelques jours. Parole d'experts, nous pourrions avoir le directeur de la météorologie un de ces prochains jours pour nous situer là-dessus.
Mais il y a un élément. Je crois que le siècle est beaucoup avancé pour qu'aujourd'hui on entende encore la pluie qu'il pleuve donc avant donc d'avoir de bonnes récoltes. Je l'ai souvent dit, le Burkina Faso, tous ces pays donc de l'Italie, ce sont quand même des pays enclavés, mais c'est le Burkina qui nous fournit des tomates, des oignons et tout. Or c'était pourtant des pays enclavés.
Non, vous voyez, ce sont
quand même des pays enclavés. Voyez-vous, donc ça veut dire que eux ils ont choisi donc la culture par irrigation et ça marche. Donc il faudrait également que à notre niveau au pays qu'on pense également à la culture par irrigation et tout, qu'on mette les moyens pour avoir quand même des systèmes ou des dispositifs assez adéquats, hein, pour que le cultivateur ne puisse pas éternellement attendre la pluie, hein, avant donc de faire de brosser les récoltes et tout.
C'est voilà. Bien ce clin d'œil, mais c'est vrai, je rappelais tantôt la France qui s'inquiète, oui, hein, pour l'assèchement de ces nappes phréatiques, oui, l'Espagne tout autant, et même les États-Unis d'Amérique. Ça veut dire que nous allons développer la technologie d'irrigation, mais c'est les nappes phréatiques que nous allons puiser. Et d'ici quelques années, nous en serons peut-être à l'assèchement dont se plaignent ces grands pays industrialisés aujourd'hui.
Oui, oui, mais je le disais tantôt qu'en fait, nous ne sommes pas, les pays africains ne sont pas les plus grands pollueurs. Hein, avant donc de vivre ce que ceux qui sont les grands pollueurs vivent aujourd'hui, il faut attendre encore au moins un siècle, au moins. Donc, pour l'instant, donc, avec ce que nous faisons, je crois qu'on peut, véritablement faire avec, quoi. On n'a pas à se plaindre, donc, de ce qui se passe à l'Est, du moins à l'Occident. Parce que là, c'est là où nous avons quand même de telles grandes industries avec ceux qui fabriquent donc des je sais pas, des avions, des véhicules et tout. Donc, ce sont quand même des pays qui polluent beaucoup plus. Vous voyez, bon, nous, on a quoi? Bon, on consomme tout ce qu'on nous envoie ici. Vous voyez, donc, pour l'instant, on se plaint pas trop. Même si, nous subissons, mais on se plaint pas trop. Donc, si on arrive à avoir ce système-là, je le dis, et même avec les récentes pluies que nous aurons, on peut aussi trouver des formules, serait-ce que pour les avoir et les utiliser plus tard. Vous voyez, donc, pensons véritablement à la culture par irrigation et ça nous ferait énormément,
oui,
du bien.
Abel, voilà. Nous disons le dérèglement climatique, le réchauffement, c'est un phénomène non mondial, du pôle nord au pôle sud, en Europe, en Asie, en Afrique, dans les Amériques, un peu partout, notamment les îles, surtout avec le phénomène des typhons, des cyclones qui s'aggravent, tout le monde a peur, mais nous devons composer avec cette réalité que la température du monde est au réchauffement.
Oui, je crois que c'est aussi un problème crucial. C'est pourquoi il y a beaucoup de conférences, beaucoup de congrès qui sont organisés pour trouver des solutions idoines. Aujourd'hui, il fait très chaud avec ce dérèglement climatique, ce réchauffement climatique qu'on subit. Je crois aussi qu'il y a un facteur important, comme le confrère le dit, c'est la pollution. C'est vrai, quand l'atmosphère est polluée, vous savez déjà les conséquences qui peuvent en découler. Donc, je crois que des actions seront menées, des congrès, des conférences sont en train d'être planifiées, comme celui de Libreville que nous avons de citer tout à l'heure.
Le One Forest Summit qui s'ouvre aujourd'hui, voilà, pour deux jours.
Voilà, exactement. Donc, je crois que des solutions seront données à ce congrès pour que au moins nous vivions de façon un peu aisé sur cette terre.
Merci. Nous revenons chez nous ici avec l'actualité, notamment la déclaration des biens et avoirs. C'est une disposition qui est contenue dans la Constitution de la 4e République. Nous en parlons souvent, régulièrement, jusqu'en 2020, quand le gouvernement a proposé que l'Assemblée a voté la loi organique, qui fixe les contours, les modalités de cette déclaration, mais ça a toujours continué à attendre jusqu'à ces derniers jours quand Madame la médiatrice de la République, Madame Awanana Daboya, a lancé cette série de sensibilisation. Et à la dernière rencontre qu'elle a eue avec le gouvernement, elle avait annoncé que l'opération de déclaration des biens va commencer le 1er mars. Eh bien, Sylvestre Béni, nous sommes le 1er mars 2023 et justement, c'est l'article que fait ton journal La Manchette, ça commence enfin ce mercredi. Alors, est-ce que l'opération de déclaration des biens et avoirs a déjà effectivement commencé aujourd'hui?
Oui, en fait, l'annonce a été faite le 21 février dernier, après donc une un séminaire un séminaire gouvernemental organisé à la primature avec le médiateur de la République qui a rencontré donc les ministres et qui a expliqué comment est-ce que tout cela va se faire. Et c'est donc ressorti donc de cette rencontre que le médiateur de la République, Mme Awana Ndaboya, a annoncé que ce 1er mars, c'est-à-dire ce jour, les membres du gouvernement vont quand même ouvrir le bal avec la déclaration des biens et avoirs. Donc il reste au médiateur de la République de situer la presse plus tard, puisque rien ne sera public. Selon les dispositions de la loi, ce sera donc sous pli fermé et tout. Donc c'est elle seulement qui saura qui a véritablement déposé et qui ne l'a pas encore fait. Donc voilà, et on s'en tient quand même à ce 1er mars là, puisque officiellement, c'est ce qu'elle qui l'a annoncé, que ça commence officiellement donc ce mercredi. Maintenant, on espère que dans les tout prochains jours, peut-être que le médiateur de la République va organiser une conférence de presse pour nous dire ouvertement que bon, voilà quoi, ça a commencé. Mais sauf qu'elle pourra nous donner des détails, ce que souhaitent véritablement les Togolais pour savoir véritablement ce qui se fait donc au sein de la République. Voilà.
Donc c'est aujourd'hui le jour annoncé comme le début de l'opération, de la déclaration des biens et avoirs qui sont concernés. Il y a ceux qu'il est convenu d'appeler les assujettis. Oui. Là, il y en a deux. En fait, deux sortes. Les assujettis de la première catégorie, voilà, dont les avoirs, aussi bien en biens meubles que immeubles, sont d'un certain niveau,
autour de 50 millions de francs CFA.
Et plus bas, il y a la deuxième catégorie, et puis les autres aussi.
Oui, c'est cela. Il y a deux catégories, comme vous l'avez dit, ceux qui doivent quand même déclarer qu'ils ont plus donc de 50 millions et ceux qui sont en deçà de cela. Donc, c'est deux catégories, mais il convient également de rappeler que c'est au médiateur de la République donc d'appeler donc les couches concernées, parce qu'il disait la dernière fois au sorti donc de la rencontre dans l'interview que c'est en fonction donc de son calendrier ou du calendrier donc de son institution qu'elle va appeler donc les couches concernées donc à venir déclarer leur bien. Donc pour l'instant on s'en tient que c'est les membres du gouvernement qui ouvrent le bal, donc on verra si après et cela, et elle va nous annoncer quand même les autres couches qui vont suivre après, d'autant plus que même la presse aussi est concernée. Donc on attend de voir la manière dont tout cela va se faire. Donc, sauf qu'il faudrait quand même qu'on puisse se réjouir qu'enfin, quoi, puisque je le disais il y a quelques jours que cette disposition est prévue dans la Constitution de 92. Donc il a fallu attendre plus de 30 ans avant que cela ne soit effectif, mais il faudrait toujours commencer quelque part. Mieux vaut tard que jamais, c'est fait. Maintenant, reste l'autre proposition, sinon l'autre souhait donc des Togolais qui veulent que cela soit rendu public. Peut-être que dans les prochaines années, ça sera fait pour véritablement lutter contre la corruption, puisque c'est en réalité donc le socle, le fondement donc de cette initiative. Pour que au début et à la fin donc de chaque exercice, de chaque fonction, ceux qui déclarent que bon, nous avons au début ils ont peut-être 10 millions ou 5 millions, bon, je dis n'importe quoi, et à la fin si on constate qu'on retrouve peut-être avec 15 millions, bon voilà, quand on sait que il n'a pas mis par devers lui au cours donc de son exercice, au cours de son mandat, mais si à la fin on retrouve peut-être 1 ou 2 milliards sur ce compte là il y a quand même matière à l'interroger pour voir comment est-ce que il peut y avoir quand même son là. Donc voilà, c'est
bien cette intention, mais tel que tu l'as précisé, selon la loi organique, oui, cette déclaration des biens à avoir ne sera pas rendue publique.
Oui.
Alors
oui,
qui saura que avec patrimoine la personnalité est entrée en fonction et avec quel patrimoine il ou elle en sort? Ce sera seulement la prérogative de Madame la médiatrice de la République de savoir, peut-être, de nous situer.
Oui, pour l'instant, c'est à elle, puisque la loi, avant, je crois que dans la disposition de 92, c'était la Cour suprême, je crois, qui devait, dans la disposition, la 345, je crois, avant, c'était la Cour suprême, maintenant, après la révision donc de la loi, c'est, ça revient, ces prérogatives reviennent donc au médiateur public. Et donc, bon, on ne peut que bon faire confiance à Madame Wanana, qui saura véritablement agir, même si beaucoup donc auraient souhaité quand même que cela soit rendu public pour que éventuellement si les gens ont déclaré en deçà de ce qu'ils avaient bon ce serait peut-être X ou Y de saisir véritablement la médiatrice le médiateur donc de la République pour toucher. Maintenant que bon c'est uniquement à elle et à elle seule, on ne peut lui rien, c'est la loi qui le prévoit ainsi. Voilà.
Peut-être que d'ici là, il plaira aux dirigeants, aux législateurs, de procéder à une relecture de la loi organique pour peut-être y apporter des amendements. Mmh. Mais l'objectif de cette opération de déclaration de biens, comme le rappellent les journaux dont Dunia Le Monde, c'est de lutter contre l'enrichissement illicite. Oui. Et la Lanterne également qui écrit que le processus va démarrer aujourd'hui. Juste rappeler que Mme Wanana ne sera pas si seule que ça. Elle se fera assister par des personnes. Pas plus tard hier, il y a eu des greffiers et des assesseurs qui ont prêté serment de se tenir à ses côtés pour recevoir les déclarations des biens et avoirs.
Oui. Oui. Non, peut-être pour avoir une idée, dans notre parution de ce jour, nous avons quand même publié un formulaire de cette déclaration-là, comment est-ce que ça doit se faire. Donc nous avons publié quand même quelques formulaires que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site donc du médiateur de la République, par où commencer, comment se faire de manière générale. Vous aurez quand même quelques extraits donc de ces documents-là que nous avons quand même publié dans notre parution de ce jour.
Merci. Sans transition, continuons avec la politique. Dis-moi d'abord, est-ce que les leaders des partis politiques sont également assujettis à la déclaration des biens?
Oui, ils sont assujettis. C'est la deuxième catégorie. Mm-hmm. C'est la deuxième catégorie des assujettis. Donc, il revient au médiateur de la République de les appeler au moment où, donc, pour venir faire également leur déclaration.
Eh bien, nous suivrons le calendrier sur lequel Mme Nanda Boya appellerait les uns, les autres, ou bien les unes et les autres pour la déclaration de leur bien. Alors, politique, la manchette revient sur la rentrée politique à opérer. Le parti Force, enfin, le FDR, le week-end dernier. Le journal rappelle, avec ce titre, Maître Paul Dodiapévon, qui dit « Se remettre ensemble devient un besoin impératif pour l'opposition. » C'est la problématique de l'union, bien de l'unicité d'action des partis politiques. Et cet appel de Maître Dodiapévon est vu par un autre journal, dont La Lanterne qui écrit lui aussi « Remobilisation au FDR de Maître Dodiapévon, la même chanson pour faire danser les militants. » Sylvestre?
Non, écoutez, moi je crois que lorsque vous suivez un peu les leaders de l'opposition, vous verrez que aujourd'hui eux tous se rendent compte que tout doit se faire dans l'union. Il y a quelques jours, nous avons publié donc une déclaration de l'ancien député Nicodème Rabia qui demandait donc au leader de l'opposition, du moins à ses collègues, de faire taire donc les rancœurs, de faire taire les rancœurs, d'abord de taire les rancœurs, de faire taire les rancœurs, parce que ils constatent ce qui se passe sur les réseaux sociaux, où certains militants donc s'insultent, ou peut-être sur les médias, par des médias interposés, on prend donc telle position contre telle autre partie de l'opposition. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait quand même qu'on soit dans l'union, que c'est dans l'union qui peut faire quand même quelque chose de grand. Et donc, la dernière fois, le samedi dernier, à la rentrée politique donc des FDR, les Forces démocratiques pour la République, de Maître Paul Dodiapévon, qui est donc le président national de ce parti, il est revenu également, il a tenu également donc le même discours, c'est-à-dire il disait que se mettre ensemble est devenu aujourd'hui un besoin impératif. Vous voyez, et lorsque vous écoutez également donc les populations, presque la majorité est donc dans cette mouture là, dans cette position, dans cette posture, si vous voulez, que les leaders se mettent ensemble et essayer donc de d'éviter l'inimitié qui s'est installée entre ces leaders là depuis la dernière élection présidentielle où ça va donc de tous les côtés et tout. Donc on veut les voir, ces populations veulent les voir ensemble. Et donc si les leaders eux-mêmes pensent aujourd'hui que c'est un besoin impératif d'être ensemble, nous sommes là seulement pour observer. Maintenant, en ce qui concerne la lanterne, je crois que c'est sa rédaction qui le dit, que c'est la même chanson. Bon, c'est sa manière également de voir les choses. Mais ce que disent également les leaders, c'est eux qui sont les premiers acteurs. S'ils considèrent qu'aujourd'hui, qu'ils doivent être ensemble, nous sommes là, on va les observer donc à l'œuvre et après on avisera.
Rentrée politique de FDR le week-end dernier, il y a, je crois, deux semaines,
oui.
C'était l'ANC qui avait tenu un meeting dans la préfecture d'Agouenivé. Et puis il y a quelques jours, je crois lundi, un journal qui relayait un appel de Agbeyome Kodjo, lui aussi qui semblait souhaiter un bémol pour que les gens se retrouvent et discutent pour dire que ces dernières années, soit à cause de la Covid ou bien à cause de ce que les partis de l'opposition se plaignaient, que les gouvernants leur faisaient beaucoup de restrictions, les limitaient dans leur activité. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de manifestations politiques. Or, dans les mois à venir, on risque de les voir sur scène, parce que si le gouvernement tient son calendrier, on devrait avoir les élections régionales cette année 2023. On devrait avoir les élections législatives également, oui, en 2023. Et puis, la charte des partis politiques, revue entre-temps, impose également aux partis politiques de renouveler leurs instances dans un an. Oui. Et cette période d'un an qui court, je crois, d'ici avril, mai ou juin,
oui.
On verra quels sont les partis politiques qui vont se conformer à la nouvelle charte politique, à la nouvelle charte des partis politiques et tenir leur congrès ou bien conseil selon les statuts des uns des autres.
Non, je crois que si vous prenez la disposition est claire, la disposition parle donc de congrès.
De congrès, carrément.
La disposition parle de congrès, donc on doit tenir un congrès au moins les 5 ans, je crois. Nous en avons parlé, je crois que suffisamment, il y a quelques semaines. Mm-hmm. Et donc les dispositions, c'est ressorti donc de la concertation nationale entre les acteurs politiques, la SNAP, mm-hmm, que la décision, ces propositions ont été faites et qui ont été entérinées, qui ont été formulées donc en projet de loi et entérinées plus tard donc au niveau de l'Assemblée nationale. Donc beaucoup de partis doivent quand même se conformer aux nouvelles dispositions, avoir donc, je crois, les 2/3 au niveau de la préfecture, tout ça. Donc j'ose croire que tous les partis politiques qui sont quand même sur l'échiquier national doivent quand même se conformer à ces dispositions là. Et ensuite, concernant les élections qui sont donc à nos portes, le samedi dernier, concernant les FDR, je crois qu'ils ont été clairs là-dessus, que avant c'était une bêtise, en fait c'est le terme, c'était une bêtise donc de ne pas participer aux élections législatives de 2018, qu'aujourd'hui ils n'ont plus les éléments pour rater le coche pour les législatives prochaines. Et donc, et qui vont quand même véritablement œuvrer à ce qu'on ait de bonnes élections avec toutes les conditions et afférentes. Donc, je me dis que on sent déjà un réveil. C'est vrai qu'avec après la période covidale, il y a quand même cette période d'hibernation où beaucoup, avec également le gouvernement qui avait refusé un certain nombre donc d'activités politiques au parti. Aujourd'hui, on sent quand même un réveil, puisque l'ANC justement a organisé il y a quelques semaines un meeting où les militants y étaient. La DMK qui a le week-end, je crois, a fait quelques tours donc dans les régions au nord du pays. FDR qui a fait sa rentrée politique. Donc dans les prochains jours, d'autres également feront des activités, puisqu'aujourd'hui visiblement ils ne sont plus empêchés. Mm-hmm. Je parle donc d'un parti de l'opposition, visiblement ils ne sont plus empêchés. Donc il y a les législatives, ceux qui iront, ceux qui n'iront pas, les législatives. Donc je crois que dans les prochains jours ça va véritablement bouger, et donc on aura pour nous on aura quand même tellement donc d'éléments, voilà, tellement d'actualités donc pour nous.
Je rappelle juste que c'est le 24 mai 2022, voilà, que la nouvelle charte des partis politiques a été voté par l'Assemblée nationale avec des modifications, par exemple le repositionnement des partis politiques, également comment ils doivent adapter leur statut par rapport à cette nouvelle charte, notamment cette obligation qui leur est tenue de tenir au moins un congrès tous les 5 ans,
voilà,
et de rendre compte en matière de gestion financière à la Cour des comptes.
À la Cour des comptes, voilà. Il y a également cet élément-là aussi qui est important, mm-hmm, et qui est précisé par la loi. Donc, ça veut dire que la Cour des comptes aura quand même donc beaucoup de clients dans les prochains jours. Voilà.
Eh bien, dans la foulée, le cas qui annonce déjà quelques semaines, quelques mois, qu'il tiendrait.
Oui, en avril pour le cas.
Eh bien, on verra pour les autres. Et tu te rappelles la date du dernier congrès de l'UFC, par exemple?
L'UFC, non, c'est vieux. Mais tout compte fait, l'UFC aussi se prépare à un congrès,
oui,
puisque ça a été annoncé. C'est pourquoi je dis que dans les prochains jours, on aura tellement donc, de mouvements au niveau donc, des partis de l'opposition. Pourquoi pas au niveau donc, de UDIR? Donc, ça fait plus de 5 ans, ils ont également tenu leur congrès, je pense, non? Le dernier était à Chevier, ben, je me rappelle plus, ça doit être en 2018 ou quoi. Bon, on verra.
Merci. Autre sujet d'actualité, l'Assemblée nationale, qui hier même a tenu une session plénière, et comme nous le rappelle le confrère Le Libéral, l'Assemblée nationale, donc hier, qui a adopté une nouvelle loi sur la prolifération des armes chimiques. L'article même dit l'arsenal juridique du Togo contre la prolifération des armes chimiques renforcé. C'est l'acte qu'a posé l'Assemblée nationale en plénière hier. Laquelle, à l'Assemblée nationale, il y a 8-9 jours, avait reçu une forte délégation du gouvernement qui était venue s'expliquer sur le rapport de la Cour, le rapport d'audit de la Cour des comptes sur la gestion du fonds COVID en 2020. Hier, j'ai suivi la TVT qui a diffusé de larges séquences de cette séance. Une semaine après, là aussi on pourrait dire mieux vaut tard que jamais. Alors nous aurions souhaité que cette séance fût retransmise en direct le mardi de la semaine passée ou quelques heures après, mais la TVT a attendu une semaine pour le faire. Mieux vaut tard que jamais.
Oui, mieux vaut tard que jamais, mais là je crois que comme on le dit peut-être vulgairement, ça ne donne plus du piment. Ça ne donne plus du piment à la chose, parce que on aurait souhaité que ça soit en direct, que les Togolais puissent suivre les débats.
Ou directement en différé.
Ou directement en différé. Mais en direct, ce serait bien donc, de voir la manière dont les uns et les autres donc, interviennent. Mais cette convocation également de la Cour de l'Assemblée nationale n'était pas aussi sur la section, puisque vous verrez que l'Assemblée était presque clairsemée le jour donc, de cette visite donc d'une délégation gouvernementale donc à l'Assemblée pour se prononcer sur le rapport de la Cour des comptes. Ce qu'on a vu, c'est que l'Assemblée semble être transformée donc à une tribune contre la Cour des comptes, où il est souvent revenu la Cour aurait dû, la Cour devrait et tout ça. Moi, je me dis que normalement, c'est le gouvernement qui devait être dans l'anticipation. Une fois que beaucoup ont été interpellés ou invités par la Cour, donc à fournir les pièces pour justifier leurs dépenses, je crois que eux aussi, ils devraient également donner ces éléments-là, qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là, donc à commenter. Le rapport de la Cour des comptes avec tout ce qui va avec et le débat que cela suscite ou a suscité au sein donc de la population. Mais bon, comme le dit le gouvernement, ils ont pris acte et puis bon, ils feront les réformes et les recommandations nécessaires de la Cour. On verra, mais...
Le débat reste toujours ouvert. La manchette qui revient sur cette séance avec ce titre, Christian Trémoy qui menace, Kaboua Abbas s'agace pour dire que dans l'affaire de fonds Covid, l'affaire continue de se gâter, comme tu l'écris.
Oui, je crois que c'est le ministre Christian Trémoy qui disait que ceux qui font dire à la Cour ce que le rapport n'a pas dit, un coup quand même de gros risques et tout, et il parlait même de condamnation. Et en faisant un rapprochement justement avec le... Mais bon, je crois qu'avant lui, il y a le député Kaboua qui n'était pas à l'Assemblée nationale le jour où la délégation ministérielle s'était présentée. Lui, il revenait également sur le dossier et il promet même une conférence de presse dans les prochains jours pour faire des déballages ou des révélations telles qu'il est dit. Mais il a laissé, je parle donc du député Kaboua, il a laissé entendre que c'est pas le gouvernement qui a demandé l'audit de la Cour des comptes, que c'est plutôt la BAD. Et tout cela reste donc à vérifier. Et donc, il promet dire d'autres choses parce que, voilà quoi. Donc, on verra si il fera dans sa conférence de presse et après, bon, on verra les éléments. Les éléments qui vont avancer.
Je rappelle que depuis plus d'un mois, c'est ce rapport de la Cour des comptes qui occupe et qui mobilise et la presse et les réseaux sociaux et les discussions ici et là. En date du 9 février, le gouvernement a publié un communiqué, mais qui n'a fait que relancer le débat. Le passage de 13 ministres avec la coordination générale de la réponse à la COVID-19 de l'Assemblée, ça aussi relance toujours le débat. Et aujourd'hui, c'est la dépêche qui titre que la société civile dénonce et condamne la complaisance du Parlement à l'égard du gouvernement. Et la dépêche qui continue que pour sa crédibilité, la Cour des comptes doit réagir. Alors, je ne sais pas si la Cour des comptes également a l'obligation de sortir de son silence pour s'expliquer, puisque c'est devant l'Assemblée que le gouvernement est allé s'expliquer. Est-ce que la Cour des comptes aussi doit trouver une tribune pour s'expliquer sur son rapport, comme disent les anglophones, wait and see?
Oui, pourquoi pas. Je crois que même après la publication du rapport, la Cour peut-être, la Cour des comptes aurait pu organiser une conférence de presse pour situer un peu donc les professionnels des médias sur la manière dont ils fonctionnent d'abord, la manière dont ils fonctionnent, quelle ont été donc la méthodologie employée au niveau donc avant donc de sortir le rapport, qu'est-ce qui a été concrètement fait. Je crois que la Cour également aurait pu nous situer de manière générale sur ce qui a été fait. Ça nous permettrait donc de juger et de voir les déclarations donc de certains ministres qui pensent que ils avaient quand même des documents, mais sauf que la Cour n'a pas tellement donc pris en compte un certain nombre donc d'éléments que aussi ils ont à leur disposition. Vous voyez donc tout cela, et on espère que bon, c'est pas encore fini. Bon, on espère que d'ici là, l'un ou l'autre pourra revenir donc au devant de la scène et nous situer beaucoup
Merci
plus.
Merci Sylvestre, voilà. On va terminer rapidement avec la Tunisie où le président a fait une sortie il y a quelques jours et par la suite, et comme tu l'écris, inquiet pour la sécurité de nombreux ressortissants subsahariens qui préfèrent quitter la Tunisie parce que nous apprenons ici et là des harcèlements qui sont déjà faits aux ressortissants subsahariens, même ceux qui sont dans le pays réglementairement et légalement ont commencé à faire l'objet de sévices.
Oui, cette déclaration donc du président tunisien qui a mis quand même le feu aux poudres, parce que aujourd'hui nous avons appris que les Ivoiriens dorment devant leur ambassade et tout. Au niveau du Burkina Faso, j'ai lu un communiqué officiel donc de leur ambassadeur qui demande à ce que ceux qui veulent revenir au pays, le gouvernement prendra donc toutes les dispositions. Les Ivoiriens qui demandent également à quitter le pays. Je crois que c'est un discours qui ma foi n'est pas dans cette logique donc de rassembler donc les Africains. C'est vrai que l'Union africaine a condamné la sortie donc du président tunisien, mais je crois qu'on pouvait aller plus loin parce que dans ce pays noir et blanc ou que sais-je encore ont toujours cohabité pendant des années sans que qu'il n'y ait ce que nous voyons aujourd'hui. Et donc cette sortie du président, je crois que la CEDEAO, sinon l'Union africaine, devait aller beaucoup plus loin. Moi, j'aurais même souhaité que beaucoup soient interpellent donc les ambassadeurs tunisiens que nous avons dans les autres États pour explication, soit donc rappeler leur ambassadeur de ce pays-là pour lui montrer quand même que le degré de cette je crois que c'est son prédécesseur qui parlait donc de l'irresponsabilité en ce qui concerne donc les propos tenus. Je crois que il a véritablement c'est vrai qu'il a tenté de calmer le jeu, mais ça ne prend pas puisque le mal est déjà commis, les noirs africains subissent. Or, la Tunisie a eu un gardien noir. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ben Saïd, c'est Béchi Ben Saïd, c'est un gardien noir de l'équipe nationale tunisienne. Mais aujourd'hui, si on pense que les noirs veulent donc changer la composition de la démographie et tunisienne, je crois que ce président est allé un peu loin.
Voilà. Bénin, on va tenir rapidement avec le Nigeria qui a connu une élection présidentielle le samedi dernier. Et les chiffres donnés hier donnent pour vainqueur M. Bola Tinubu, oui, qui est le vice-président sortant
du parti au pouvoir. Oui, mais sauf que vous voyez que l'opposition est sortie pour demander l'annulation. Donc c'est ça véritablement le cycle infernal en Afrique. L'opposition qui demande l'annulation parce que on parle de fraude
et tout. Michel Tomenga, il est 12h04, nos auditeurs nous excusent, mais c'est toujours pour bien les servir. Maintenant nous marquons notre pause avant de recueillir leurs commentaires et questions. 22 21 33 74 91 36 63 75, la parole est à vous. Premier auditeur, bonjour.
Ouais, sauf bonjour.
Oui.
Ah, nous sommes déjà sous l'arbre, hein. Que Dieu vous bénisse.
Amen.
Voilà. Bon, vous savez, si le gouvernement, de toute façon, les gens disent que c'est le gouvernement qui a demandé l'audit ou la base. Moi, je vais dire ici sur ce plateau que c'est Dieu qui a demandé l'audit. Et ça, les gens permettent de dire que non, on peut tout faire. On peut voler, on peut faire des suspatures, on peut piétiner, on peut tout faire. Bon, le jour de ma mort, il y a le purgatoire, on viendra prier et je serai sauvé. C'est archi faux. Je déclare ce matin au nom de Jésus que nous sommes dans un pays où ce pays appartient à Dieu. Et toutes les ressources, c'est pour notre Dieu, c'est pour toutes les populations. Donc je voudrais que les gens parlent que tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire, il faut qu'il y ait une restitution. Nous aussi, les hommes de Dieu, nous faisons la restitution. Moi, personnellement, Senghor, il y a certaines choses que j'avais pas l'état, mais je suis en train de faire la restitution, de donner l'argent, de faire retourner l'argent du pays. Soyez bénis, parce que l'enfer est là. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, l'ami Senghor. Mais je vous prie juste, je nous prie tous de respecter le caractère laïque du club de la presse. Hein. Merci. Le suivant, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Oui, c'est Yannis.
Oui. Oui.
Salut. D'abord, je dis, concernant le rapport de la Cour des comptes, je vais le dire encore une fois, il y a quelque chose qui m'a manqué. C'est au moins qu'il y ait les analyses autour de ce rapport. J'aurais préféré que ça ne se limite pas juste entre vous les journalistes. Et on peut avoir l'avis d'un économiste aguerri sur certains points de ce rapport, surtout après le passage des ministres à l'Assemblée nationale par rapport à tout ce qu'ils ont dit comme élément. Si on peut avoir l'apport d'un économiste, en tout cas ça serait un plus. Et deuxième point, c'est-à-dire que c'est vraiment une honte de constater comment notre présidence de l'Assemblée nationale se comporte par rapport au gouvernement. C'est-à-dire que c'est une honte pour les institutions de ce pays. Les ministres Je me dis pourquoi ils sont partis, au lieu de présenter les preuves à la Cour des comptes, ils sont partis à l'Assemblée nationale. Je me rends compte que les ministres togolais ne se considèrent pas comme des serviteurs du peuple. C'est-à-dire pour eux, se présenter devant la Cour des comptes pour apporter des preuves, ça serait comme une manière pour de se rabaisser devant une institution. Ils se considèrent plus grands que l'institution. Voilà pourquoi ils n'ont pas voulu se présenter devant la Cour des comptes pour apporter des justificatifs, mais plutôt se présenter devant l'Assemblée. Pour eux, c'est plus honorable pour eux. Voilà le genre de ministre que nous avons dans notre pays. Merci.
Merci. Du respect quand même aux grands serviteurs de notre pays. Une auditrice hein, qui a travaillé dans les banques se dit choquée hein, par ce qu'elle appelle l'arrogance et le ton railleur et sentencieux du ministre des Finances qui s'est carrément permis de donner des cours de leçons et de procédures d'audit à la Cour des comptes. En principe, quand la Cour des comptes publie son rapport, c'est des têtes qui tombent et l'Assemblée nationale, sur la suite du rapport de la Cour des comptes, diligente ou bien met sur pied une commission d'enquête parlementaire. Ce n'est pas pour écouter les mises en cause, mais que les députés se constituent en commission pour enquêter et des sanctions. Mais c'est le Togo comme il va. Alors, l'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour, Didier.
Oui, Didier.
C'est une très bonne chose que M. Johannes vient de dire tout à l'heure, que les économistes peuvent venir. Vous avez le Togo. Nous avons des grands professeurs d'université. Ça, ils ne vont jamais venir sur votre plateau, vos plateaux-là. Mais si c'est pour critiquer les politiques en privé-là, ils sont champions. C'est-à-dire les intellectuels démissionnaires dans ce pays. Ceci étant dit, pour l'émission de la TVT, rien n'est étonnant. C'est que dans notre pays, le ridicule ne tue pas. Donc, c'est sans commentaire. Maintenant, revenons sur la déclaration des biens. Oui. Moi, je n'ai même pas confiance du tout à cet organe. Qui nous dit que quand à la moindre difficulté, madame, on ne va pas démissionner. On se rappelle du 98 ici. À la moindre difficulté, la Sénat a démissionné. Après tout, on l'a retrouvé à la commission de la CEDEAO. Voilà le problème de nos intellectuels dans notre pays. Ils sont prêts à s'accroquiner avec le régime pour pouvoir des postes. Parce qu'ils savent bien que en cas de pouvoir les ramener pour le nommer à des postes. Nous aussi, lorsqu'on va commencer par les critiquer, les intellectuels, ils vont changer de comportement. Dans un pays normal, Madame Awa ne doit jamais occuper ce poste. Dans un pays qui est normal, qui se respecte, elle va jamais occuper ce poste parce qu'elle a déjà failli à une de ses missions à la tête des grandes nations de ce pays. Je vous remercie.
Merci Didier. Nous autres journalistes, nous faisons l'effort d'inviter les personnes ressources. Mais vous comprenez que nous n'allons pas inviter quelqu'un avec un pistolet sur la tempe. Le suivant, bonjour.
Hello.
Oui. Et si
l'indignité criarde, l'indignité. Les gens ont perdu leur dignité dans ce pays. Et puis, je sais qu'au Japon, un Japonais qui se permet d'être indigne se suicide. Mais pas au Togo. J'appelle moi et j'entends des gens parler encore en dessous, hein, qu'on nous laisse vivre dans ce pays. Je te parle là, mais moi j'entends encore des voix derrière. Pourquoi? Bon, ça c'est un. Et maintenant, Awanana de 98, qui revient nous faire ça, à ce coup-là. Elle a occupé plein de postes, elle a cumulé des postes, et elle revient nous faire ce cinéma. Est-ce que c'est normal? Personne ne dit rien. Les élites formées pour défendre la République en danger ont démissionné. Ils se tairent. Et ils regardent faire jusqu'à ce que la République soit dans cet état. Hein? Ils laissent faire. Et puis, vous avez parlé de la fédération des poutistes ou quoi, fédération de tout ça là. On n'en a pas besoin. Les poutistes doivent être punis pour que l'Afrique évolue. Hein? Le Tunisien, il a dit quoi de mal pour que les gens s'en offusquent? Moi, je vois pas hein, ce qu'on endure dans nos pays pour que les jeunes émigrent pour aller vivre ces trucs-là chez les Arabes. C'est pire ce qu'on vit chez nous là.
Merci.
Il n'a pas dit grand-chose pour moi.
Merci.
Le Tunisien n'a pas dit. Il peut trouver des mots plus forts que ça. Que les gens, que tout rentre chez eux, chez soi peut-être, pour voilà.
Merci. Pour ce qui concerne Madame Awanana, Jésus a dit quelque part que celui qui n'a jamais péché lance le premier hein, la pierre à la femme qu'on cherchait à condamner pour dire que nous tous, nous avons pu commettre des erreurs un jour ou l'autre. L'essentiel, c'est d'en apprendre et de s'améliorer. Le suivant, bonjour.
Salam alaikum, monsieur Sass.
Monsieur Waris.
Bonjour, monsieur Sass.
Bonjour à vous.
Je salue tout le plateau.
Nous vous saluons aussi.
Bon, aujourd'hui, bon, c'est pour vous féliciter pour ce que vous nous faites.
Merci.
Et dire à nos forces de l'ordre de sécurité qui se battent au nom du pays que nous les soutenons.
Mm-hmm.
C'est ce que le message que je voulais leur adresser ce matin.
Merci.
Nous les soutenons.
Ça fait chaud au cœur. Merci, monsieur Waris. Le suivant, bonjour.
Bonjour, monsieur Sass.
Bonjour.
Oui, c'est Papa Sass, je l'ai déjà motivé.
Oui.
Bon, ce que moi je voudrais dire, c'est que, bon, à la fin de la déclaration des biens,
oui,
il faut que le médiateur ou bien la médiatrice de la République situe le peuple sur ceux qui sont arrivés à déclarer leurs biens.
Mm-hmm.
Merci.
Je vous en prie. Comme l'a dit Sylvestre Béni, peut-être que Mme Awanana tiendra la presse informée de l'évolution de sa mission. Le suivant, bonjour.
Bonjour.
Oui.
C'est Georges.
Georges. Ah, Georges, il y a un petit moment.
Oui.
Je suis heureux de vous savoir de retour.
Travailler pour son pays, c'est un sacerdoce. Ceux qui doivent s'inscrire dans la justice doivent répondre à cet appel. Donc, Mme Awanana, il avait fauté dans le passé. Donc, ce poste qu'elle a aujourd'hui, elle n'est pas digne de ce poste. Donc, ça ne colle pas avec ce que Jésus a dit. Je crois que le Tunisien...
Merci de me recadrer. J'avoue que je ne suis qu'un petit apprenti chrétien catholique.
Vous savez, travailler pour son pays, c'est une autre mission. Hein. Je sais que les choses sont très difficiles pour eux-mêmes. Quand ils sortent dans les rues, ils n'ont qu'à voir nos jeunes frères. Ils sont dans le désarroi total. C'est pourquoi ils commencent à traverser le Sahara malgré tout ce qui se passe avec ces extrémistes-là. Ils se retrouvent en Tunisie. Ils sont nombreux. Ils sont tunisiens, ils sont togolais, ils sont ivoiriens. Mais Kais Saïd, il est professeur d'université. Il est en train d'interroger la conscience du peuple noir. Je dis bien le peuple noir. Pour quelle culture on se bat? Nous devons nous battre pour nos jeunes frères, c'est-à-dire créer des emplois pour eux, ne pas dilapider les ressources du pays. L'injustice crée toujours la violence. Et dans ce pays, les choses se passent. Et on passe. Personne ne rend des comptes. Et c'est pas normal pour un pays. Bonne journée, grand frère.
Merci, Georges. Je suis vraiment heureux de vous savoir de retour et c'est que vous redeviendrez fidèle et régulier. Nous allons prendre le dernier auditeur aujourd'hui. Bonjour.
Oui, c'est Yannick qui revient.
Oui, bon retour.
Je pense que un économiste comme Thomas Nkunu, en tout cas, vous l'invitez sur un sujet comme ça, je ne pense pas qu'il déclinerait votre invitation. Peut-être si vous invitez d'autres qui n'ont pas le courage de passer sur les médias sur ce genre de sujet, là on peut comprendre. Voilà donc, voilà quoi. Et puis, pour ajouter quelque chose, vous savez, concernant le rôle du Parlement dans l'interdiction, ce qu'on a voulu...
Il est parti. Ah, Michel, il faudrait pas que demain il appelle pour dire que c'est nous qui l'avons coupé. Hein. Merci beaucoup. Juste rappeler que c'est sur nos antennes que vous avez fait la connaissance de notre ami Thomas Koumou. Il va revenir quand son agenda le lui permettra. Merci. Eh bien, Sylvestre Béni et Abel Ozi, vous avez écouté les auditeurs et auditrices, chacun avec l'angle qui l'intéressait. Sylvestre?
Oui, moi, je crois que beaucoup ont abordé le sujet concernant donc la Cour des comptes.
Et je me rends compte que personne n'a abordé le problème du réchauffement climatique.
Du réchauffement climatique, je crois que... Oui, tu as bien fait le constat. Moi, je vais véritablement demander aux uns et aux autres de ne pas fragiliser la Cour des comptes. Voyez-vous, ce qu'a sorti cette Cour-là dernière fois, il faut avoir quand même du courage pour le faire. Et si nous arrivons à avoir des institutions fortes, je crois que le débat a été posé par Barack Obama et tout. Et puis, je me rappelle, même si on fait donc un retour dans l'histoire ghanéenne, vous verrez que il y avait J.J. Rollins qui avait sorti une phrase quand il était à Zafé. Il disait que je ferai du Ghana. C'est-à-dire, il disait que aux 7 Ghana so strong. That even if it is the devil who comes into the power, he cannot do what he wants, but he will do what Ghanaians need. Ça veut dire quoi? Je ferai des institutions so fortes que même si c'est le diable qui venait donc à prendre le pouvoir au Ghana, il ne fera parce qu'il passe pas la tête, mais il fera ce que demandent donc les Ghanéens. Donc il faudrait pas qu'on ait quand même et cette image-là que les gens donnent aujourd'hui pour fragiliser la Cour des comptes, de grâce. Puisque cette Cour a eu quand même le courage de sortir ce rapport-là, c'est ce que nous voulons. Et aujourd'hui, c'est avec une certaine fierté quand j'écoute donc le président de la Cour suprême qui dit les choses telles qu'il le veut, telles qu'il les pense. Et tout ce qu'il dit, vous verrez que c'est le constat, nous le voyons. Quand le président de la Cour suprême disait la dernière fois que la corruption est devenue presque le deuxième sport favori au Togo, je crois qu'aujourd'hui, en tant que Togolais, je ne peux pas le nier parce que nous le faisons, nous tous, nous sommes dedans. Nous tous, nous sommes dedans. Parfois, on nous arrête parce que nous avions violé les feux tricolores. Nous cherchons donc à glisser quelques billets donc aux agents et tout. Nous participons également, d'une manière ou d'une autre, à la corruption dans ce pays. Voyez-vous? Donc, il faudrait quand même que nous prions pour avoir des institutions fortes. Et c'est en cela que nous pouvons quand même redorer quand même le blason de ce pays qu'on a beaucoup présenté à l'époque comme la Suisse d'Afrique, un pays qui a quand même de beaux tests. Je veux véritablement que les gens puissent s'inscrire dans cette dynamique-là. Et je le dis et je termine par là. Ne faisons rien pour fragiliser la Cour des comptes. Sinon, ce serait quand même une institution encore de perdue.
Sylvestre, c'est vrai que depuis une semaine, nous enregistrons beaucoup de réactions. Des gens qui se disent vraiment scandalisés par le comportement, les propos tenus par certains ministres et certains députés vis-à-vis de la Cour des comptes. Parce qu'une institution de la République, comme tu l'as dit, elle se respecte.
Oui.
La présidence de la République, le gouvernement, l'Assemblée nationale, mais également la HAC, pour ce qui nous concerne, la CNDH, la Cour des comptes, la Cour suprême. Tout Togolais devrait respecter ces institutions de la République. Et comme le dit encore l'auditrice, quand un ministre n'est pas d'accord sur le rapport de la Cour des comptes, ou bien il démissionne.
S'il n'est pas d'accord, c'est son droit. Il n'a qu'à envoyer les documents.
L'Assemblée devrait plutôt commettre une commission parlementaire pour chercher à en savoir. Ouais. Mais c'est dit que la scène que l'Assemblée et le gouvernement ont joué le mardi dernier plaise très peu à bon nombre de personnes.
Ouais.
Le débat ne devait pas être à l'Assemblée, mais ailleurs.
Ouais.
Abel aussi, en réaction de ce que les auditeurs ont dit avec nous, c'est vrai que. On n'a pas parlé de boissons frelatées, on n'a pas parlé de dérèglement climatique, alors que nous en souffrons tous, aussi bien la Cour des comptes que les personnes mises en cause par ce rapport-là.
Moi, je m'attendais à des sujets concernant la santé ou bien le changement climatique, mais bon, aucun auditeur n'a évoqué ce sujet, donc on est là.
La cigarette?
Également,
la dépression auxquelles sont soumises les femmes enceintes,
voilà.
Ces femmes enceintes que nous devrions, auxquelles nous devrions apporter de l'attention, nous sommes tous concernés, mais
c'est ça
n'a pas intéressé les auditeurs aujourd'hui.
Oui, je crois.
Merci. Maintenant, ton carton de fin d'émission.
J'aimerais adresser un petit carton jaune à toutes ces bonnes dames revendeuses de nourriture dans nos écoles qui négligent souvent l'hygiène alimentaire dans nos écoles pour nos élèves. Pourquoi je dis ça? Parce que dans une école primaire publique dans le Dankben, c'était en février 2023, on a enregistré une cinquantaine d'élèves qui ont été victimes d'intoxication alimentaire.
Oui.
Des élèves qui se tordaient de douleurs gastriques et beaucoup ont été hospitalisés. Tout ça, c'est parce que ils ont mangé à Caen.
Auprès d'une dame.
Voilà. Donc, ils ont été contaminés. Donc, nous demandons et nous exhortons toutes ces bonnes dames-là, toutes ces bonnes vendeuses de nourriture dans nos écoles, à toujours veiller, surveiller et à assurer une bonne hygiène alimentaire pour nos enfants, pour nos élèves.
Abel, j'adhère à ce carton jaune, sauf que je voudrais qu'on l'étende à toutes les personnes qui prépare pour du grand public.
Exactement.
Chacun devrait s'imposer un minimum de rigueur en matière d'hygiène et de soins apportés aux aliments qui nous vont manger.
Exactement.
Céleste Benny, ton carton de fin d'émission?
Non, j'ai pas de carton, mais ça fait un véritable bas. Je n'ai plus attendu Papa Siviti.
Il a appelé hier.
D'accord, donc je lui fais un coucou.
Et Papa Siviti, à tous les auditeurs fidèles, ceux qui nous ont habitués à les écouter tous les jours, nous voudrions qu'ils soient présents et qu'ils donnent envie à d'autres personnes aussi de les rejoindre.
Voilà.
L'appel est fait. Nous allons inviter les personnes ressources, professeurs d'université économique, mais il faudra que les auditeurs également soient nombreux, de plus en plus nombreux, à nous enrichir quand ils appellent. Et Michel sera le premier content, n'est-ce pas? Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, jeudi, à 11h, si Dieu le veut, Dieu le voudra bien, nous pourrions avoir quand même une personne ressource sur un sujet important. Mais comme je ne voudrais pas annoncer quelque chose dont je ne sois pas sûr, j'attendrai demain. Si la personne, masculin ou féminin, est là, je vous l'annoncerai.